Il est 12h.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Tout en lui reconnaissant quelques similitudes avec les grandes questions existentielles, on pourra entendre dire de l'épanouissement musical qu'il consiste à savoir se renouveler, mais encore qu'il n'ira jamais très loin sans entretenir une certaine fidélité à soi-même. Et s'il n'y a pas plus important pour qui fait de la musique de temps en temps ou toute sa vie d'y investir des choses spécialement décisives, c'est donc par là qu'il devrait convenir d'interroger les créateurs dans ce qui se tisse d'un projet à un autre. Cela supposerait de sortir de la logique propre de tel ou tel opus pour se donner une chance de toucher à ce qui compte. Cela demanderait un renversement des habitudes journalistiques. Au lieu d'interroger les artistes sur leur actualité, sur leur projet du moment, il faudrait organiser les choses pour leur permettre de déplier ce qui traverse les différentes étapes de leur parcours, ce qui se faufile dans leurs œuvres au fil des années. C'est exactement avec cette intention que ce numéro de Métaclassique accueille une invitée unique, la compositrice Violetta Cruz, mais à deux moments bien distincts dans le temps. Après l'avoir interrogée une première fois il y a une dizaine d'années, nous l'invitons à revenir sur ce qu'elle avait dit à l'époque et qui serait susceptible de tenir encore 10 ans plus tard.
Entre tous pour deux, à moitié égal, un entre deux. Un à présent entre deux, entre tous égal, tout seul, à travers, à moitié, en dehors.
Est-ce que tu te souviens de cet entretien ?
Des bouts, oui. Bah, parfois, j'ai des souvenirs de ce que j'ai dit et je veux aller chercher ce que j'avais dit et comment je l'avais formulé. Donc voilà, je vais chercher des choses précises, mais je n'ai voilà, pas les souvenirs de tout. Peut-être les souvenirs qui restaient plus forts dans ma tête, c'était la... comme une dispute que j'avais dans ma tête face à un beau son et une revendication d'un son moche, entre guillemets. Enfin, c'était ça.
Quels étaient les termes du débat à ce moment-là ?
Disons qu'il y a... un stéréotype, voilà, plutôt, de la musique française. L'importance que donnent les compositeurs français au timbre. Et dans ce sens, une préférence par les cordes et carrément une utilisation très récurrente de certains mots de jeu. Donc pour moi, c'était un peu les clichés dans ma tête d'un beau son, des harmoniques, des cordes, des trémolos harmoniques sous le ponticello. Et voilà, je trouve que c'était vraiment très récurrent, mais... C'est très circonstanciel, disons que peut-être qu'à ce moment j'écoutais surtout cette musique-là, donc et face à ça, il y avait d'autres sons que j'ai trouvé plus intéressants parce que il faisait un peu le côté plat, moche, brut face à toute cette translucidité des harmoniques. Et je crois que c'était au moment où j'écrivais une pièce pour cuivre. Voilà, c'était cette confrontation.
Alors, en réécoutant ce passage, on va le réécouter tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, le mot français, je crois, n'était pas apparu dans la discussion.
Ah.
C'est-à-dire que c'était pas en tant que son français qu'il était plus ou moins stigmatisé, même si il y avait de ta part véritablement l'idée que c'était pas bien de faire du beau son, que ça devait pas être une évidence. Et je t'avais interrogé à savoir est-ce que c'était une question de goût, une question de principe qui t'en tenait à distance. Mais si on rembobine un tout petit peu l'entretien, cette question-là était quand même arrivée à partir de la question spectrale, donc quand même d'une affaire française, mais c'était par là. On réécoute du coup ce passage. «
quelque chose de très important dans la musique spectrale, c'est le son en soi-même, la richesse du son qui vient de l'analyse du comportement acoustique et de prendre ça pas seulement comme modèle mais aussi comme matière. Bon, il y a les pièces de Grisey qui sont structurées mais aussi qui sont des orchestrations des timbres complexes. Donc il y a une valorisation du son en tant que en lui-même à l'intérieur. Et ça produit des sonorités très riches. Bah, la première fois qu'on entend une pièce spectrale, c'est assez étonnant en général. On découvre une musique contemporaine qui est plus généreuse au niveau du son, qui est beaucoup plus consonante que d'autres musiques contemporaines, parce qu'elle est basée dans la série harmonique. Voilà, c'est comme une... Comment ça se dit quand on fait la paix avec quelqu'un avec qui on discutait.
Une réconciliation.
C'est ça, une réconciliation avec un son agréable, un beau son. Et justement, maintenant, je vais échapper du beau son parce que je trouve que ça peut être une tricherie. Contentar, c'est comme être conforme avec un beau son et arrêter de se poser d'autres questions aussi très intéressantes par rapport à la perception, par rapport à la nature des objets musicaux. Donc voilà, maintenant j'essaie de chercher tout ce qui n'est pas les beaux sons et tout ce qui m'intéresse qui n'est pas dans les sons comme matière.
Bah pour moi, ce serait peut-être, ça paraîtrait aussi une affaire de valeur et pas seulement d'options de goût.
Oui, carrément. Oui.
C'est presque une histoire morale finalement.
Morale. Ça c'est un peu trop.
Un peu trop chargé de le dire comme
ouais.
ça.
Oui.
Mais il y a
oui.
un peu de ça quand même, non?
Oui, un petit peu, mais bah après, je crois que ça dépend de chaque compositeur. Moi, j'aime. Ça m'aide à sentir que je suis en train de faire quelque chose très important. Non, pas important. Je ne sais pas, que j'ai une voix dans l'histoire de la musique. Donc, dans ce sens, j'ai besoin de mettre en question ce qui est en train de se passer. Donc, j'ai besoin d'une sorte de manifeste, mais que je garde pour moi et qui est mon. Que j'ai besoin de sentir que j'ai une rapport forte avec et une position claire et une voix et un point de vue important avec une esthétique, avec une esthétique qui s'élope dans le milieu qui m'entoure.
Mais est-ce que la délimitation entre ce qui, à l'époque, semblait une séparation assez nette entre le beau son construit avec plein d'harmoniques telles que la musique spectrale arrive à en construire et ce que tu voulais faire, donc presque un son plus sale ou je sais pas, est-ce que cette délimitation s'est déplacée en changeant de nom ?
C'est enrichi, disons que tout à l'heure, c'est drôle parce que je me souviens, je crois qu'à l'époque, j'écrivais une pièce pour cuivre. Et en ce moment, j'ai écrit une pièce pour orchestre d'harmonie.
Donc avec beaucoup de cuivre.
Voilà. Et justement, j'ai parlé de cette pièce avec une autre compositrice qui écrit beaucoup pour les cordes. Et elle me disait, ouais, mais bon, c'est l'orchestre d'harmonie, quoi. En disant,
oh, c'est
du lourd, oui, avec un petit... Et donc, ça revient, mais c'est naturel, il y a quand même plein de connotations, il y a plein de valeurs. Donc oui, je sais que pour elle, pour ses recherches, elle ne va pas forcément... je ne sais pas, c'est pas une formation qu'elle va choisir pour elle-même. Mais peut-être avec moins de connotations, disons oui, c'est des valeurs esthétiques... Mais c'est subjectif, ça reste très subjectif. Disons qu'il y a. Enfin, et oui, et je pensais par exemple au Grisey, Il part d'un son d'un cuivre qu'il orchestre avec des cordes.
Ouais.
Donc oui, le son des cordes, c'est peut-être plus pur et donc il y a plus. Enfin, après, c'est technique. Enfin, voilà, c'est plus large. Mais pour moi, c'était un conflit des valeurs esthétiques à l'époque et encore toujours.
Je me souviens, avant d'avoir réécouté, qu'on avait, et ça s'est confirmé en le réécoutant, balisé l'ordre des décisions quand on écrit une pièce. Je crois que je t'avais pas mal interrogé sur la question du titre, sur la question de comment on décide de la durée, et puis comment on décide du panel des timbres. Et tu semblais un petit peu essayer de désorganiser les habitudes par rapport à ça, en disant, à la différence d'autres élèves du conservatoire, je décide de l'harmonique peut-être plus spontanément que délibérément, mais finalement la question des timbres se posait très tôt, c'est-à-dire c'est comme si le panel des timbres était quelque chose qui était inaugural, donc poser la question du son d'office.
Oui, bah j'avais pas le souvenir de comment on était arrivé à ça. Maintenant pour moi la question se pose plus par plus au niveau pratique, c'est-à-dire pragmatique. On me fait une commande pour un ensemble X, et donc c'est à partir de cette formation que je vais chercher mes sujets, voir quelles autres pièces j'ai pour ces mêmes instruments, et voir quel va être le dialogue de la nouvelle pièce avec les anciennes. C'est plus dans ce sens que j'ai un nouveau projet et j'ai choisi la formation des rien, moi-même. Quoi.
Je te propose de réécouter ce moment où tu évoquais cette problématique autour de l'harmonique.
Il y a pas longtemps, j'ai eu un... J'ai eu l'opportunité de montrer mon travail à un compositeur. Il m'a demandé comment est-ce que je choisissais l'harmonie et mes pièces. Je lui ai dit qu'au clavier. Et il m'a dit qu'il trouvait que c'était indispensable d'avoir un système. Et parce que l'oreille, elle était... En espagnol, c'est viciada.
Vicieuse?
Non,
elle ne peut pas décider, quoi.
Elle a trop de références culturelles pour être un critère. Et justement, c'est sans ces références culturelles ce qui m'intéresse comme critère.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser faire les automatismes d'un système, ou il ne faut pas laisser faire une théorie.
Oui. Après, je l'ai dit que quand je travaille avec des systèmes, j'avais l'impression que la musique... Et m'appartenait moins, que j'avais moins les choix, j'avais moins la liberté sur elle. Mais lui, il m'a dit que j'avais peut-être pas bien choisi le système, ce qui est possible.
Tu as bougé par rapport à ça depuis il y a 10 ans?
Disons que je comprends mieux, mais c'est toujours la même position. Disons que c'est intéressant. Évidemment, on a un système aide à faire les choses sans se poser trop de questions à plein d'étapes. Donc, en effet, si on systématise un certain nombre de choix, ça va être plus pratique. Mais je continue à... Enfin, même, je crois de plus en plus qu'on n'écoute pas de zéro, que l'oreille, elle est nourrie par toutes ces références. Et justement, c'est à force de vouloir trop ignorer ces références qu'il y a plein de musiques qui restent hermétiques pour beaucoup de gens. Et donc, maintenant, j'assume... Et même, je compose avec ces références et je vais plus... si je vais aller dans la caricature, je sais quels sont les moyens. Donc peut-être mes systèmes, il est un peu amélioré, basé sur ces références. Donc c'est pas contradictoire, en fait.
Oui, parce que finalement, ce que tu dis, c'est que tu as une meilleure maîtrise des langages et donc une meilleure circulation entre eux.
Oui, et après, disons que peut-être, je ne me souviens plus quel était ce compositeur, mais je sais que je venais, après ma formation en Colombie, d'une façon de concevoir la création trop basée sur un système et qu'il me fallait me libérer un peu de cette... ouais, non, cloison, je ne sais pas si on dit ça, mais oui. Et je pense que parfois, en tant qu'auditeur, on entend aussi le système trop fermé et trop étroit. Donc voilà, je pense que je suis de plus en plus convaincue de ce que je pensais.
Mais est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais choisi la France? T'es arrivée en quelle année en France?
Il y a 11 ans, en 2009.
Donc juste avant que l'on fasse cet entretien, enfin quelques mois avant.
Ouais, c'était très tôt.
Et tu te souviens ce que tu disais de pourquoi la France?
Bon, il n'y a pas 10 000 raisons. Disons que parfois je fais un choix des raisons, mais je crois que oui, qu'à la base c'était par l'influence de mes collègues qui ont déjà fait ce chemin avant moi et par ma formation. Disons que finalement, ce que nourrit un étudiant, c'est ça va être très ça va établir les bases d'un univers qu'il va se construire. Et donc mes bases, elles étaient assez françaises, donc je sentais une empathie contre laquelle après je me suis révélée, mais voilà, ça fait partie de mon histoire.
Voilà la réponse que tu as apportée à ce moment-là.
Oui, bah déjà toute l'école spectrale, c'était assez attirante pour moi dans un moment. Maintenant, c'est un peu moins. Mais ça m'a attirée comme sonorité, comme type de musique que je voulais faire.
Et quel compositeur en particulier?
Bah, à ce moment, j'ai connu Gérard Grisset et Tristan Murail. Et Philippe Manoury. En fait, Philippe Manoury, il est allé en Colombie. Il a donné des masterclass, donc c'était une des rapproches que j'ai eues avec la production musicale artistique en France aussi. Et il y avait aussi Robert Pascal qui donne des cours au Conservatoire de Lyon.
Mais pour quelle part est-ce que cet attrait pour l'école spectrale a pesé dans ton choix pour le conservatoire de Paris plutôt qu'un conservatoire américain?
Disons que ce que je comprenais de la production artistique et du chemin qui était soutenu aux États-Unis, c'était vers la liberté, vers la créativité, vers l'expérimentation. Et ça, maintenant, ça occupe une place très importante dans ma création. Mais ce n'est pas ce que j'attends d'une institution. C'est quelque chose qui est déjà dans moi. Qui est déjà...
Oui, donc c'est quand même moins une orientation stylistique qu'un cadre presque déjà de production peux attendre d'un.
C'est ça, oui. Ce que je voyais en France, c'était tous les moyens pour faire ce que je voulais faire, en fait. Et une formation académique un peu plus liée à un savoir-faire, une matière de compositeur, mais qui donnait quand même la place à un développement artistique avec d'autres esthétiques.
Et tu es d'accord avec ce que tu as dit il y a 10 ans?
Oui, bah, j'ai un peu plus de recul, normal, parce que disons que, enfin, je comprends qu'on est très les circonstances qu'on vit. Et à l'époque, j'étais plus, je croyais qu'on était plus une essence. Enfin, je ne sais pas. Il y a, enfin, maintenant, c'est plus facile pour moi de voir que ce qu'on m'a montré, que j'avais plus de références d'une musique que d'une autre. Et après, voilà, on va vers ce qu'on, où, là où on ressent le plus d'affinités. Et ça, mais si les références changent en arrivant en France, bah, ça va réorganiser les poids. Et donc, voilà, ça va me faire changer les chemins. Et si ça se trouve, enfin, si j'avais choisi une école américaine, je ferais musique plus française. Enfin, je sais pas, c'est très mobile.
Est-ce que tu te souviens, tu faisais une distinction qui semblait vraiment importante par rapport à ce que tu composais, entre timbre et texture? Elle tient toujours, cette distinction? Ou comment est-ce qu'aujourd'hui tu la prendrais?
En ce moment, je le vois plus comme des degrés de zoom. Mm-hmm. Voilà, les timbres, c'est tout près. Et la texture, je vois. Enfin, quand je pense à la texture, je vois des choses un peu plus complexes, des lignes, des points, alors que timbre, c'est très pur dans ma tête. Ce sont des couleurs, ce sont des lumières. Mais voilà, pour moi, une texture, c'est plus. Les couches, les rapports sont plus complexes.
Donc, tu qualifies la différence en termes de relief?
Pardon?
Tu qualifies la différence en termes de relief?
Oui, peut-être. Ouais, c'est difficile. Enfin, disons que pour les comparer, il faut que je fasse appel dans ma tête à une chose très visuelle, parce que ce sont des catégories assez abstraites. Donc, en même temps, elles peuvent être différenciables, mais parfois elles sont aussi synonymes. Donc, ouais, c'est pas très. Elles ont un rapport complexe.
Mais très complémentaire. Alors que il y a une dizaine d'années, tu n'avais pas le même vocabulaire pour qualifier la différence, et tu lui, semble-t-il, faisais porter autre chose.
On peut utiliser la texture, le mot texture, de deux façons différentes. Il y a texture comme un matériau de la musique. Donc c'est lié à un temps pas événementiel, c'est un temps plutôt homogène qui, oui, dans la musique par exemple de Ligeti, bon, je pense surtout à Ligeti de Xenakis aussi, il y a cette texture qui est une construction musicale, mais du point de vue de la théorie musicale, la texture c'est le rapport entre les différentes voix ou plans présent dans la musique. Donc la polyphonie, c'est un type de texture. L'homophonie, c'est la mélodie et l'accompagnement. Donc c'est un rapport des deux éléments de la musique.
Il y avait quand même déjà le rapport de plan, oui.
Oui, ouais, je crois que ça. Enfin, c'est toujours une façon. Enfin, c'était un outil d'analyse qui m'a aidé à comprendre ma musique et celle des autres depuis assez tôt, je pense.
Il y a aussi la liaison entre le temps et l'événement.
Oui. Je découvre un peu tard les noms, les catégories qu'a établi Pierre Boulez entre temps lisse et temps estrié.
Oui.
Et voilà, je pense que ça. Ça représente de façon assez claire cette différence entre un temps qui est perçu comme une globalité sans repère, en opposition à un temps qui est basé sur des moments clairement identifiables. Voilà.
Je te propose d'écouter à propos du temps ce que tu disais il y a 10 ans, donc quant à ne pas trop le remplir. Je voudrais savoir si ça tient toujours.
Quelque chose qui arrive souvent dans la musique contemporaine.
C'est qu'on perd la notion du temps finalement.
C'est qu'on a un temps complètement. Comment ça se dit, quand c'est trop rempli, quand.
Trop dense, trop chargé.
Oui, mais saturé d'informations.
Ah oui.
Et après, ça dépend évidemment du public, des gens qui sont capable de suivre ce temps tellement riche en informations. Mais en général, je trouve que le temps, il est trop rempli. Je découvre avec étonnement qu'il y a 9-10 ans, j'avais déjà une clarté après, qui s'est nourrie, mais qui est la même en fait. Mais maintenant, c'est plus maîtrisé, disons que ça continue à.
C'est-à-dire que tu assumes mieux d'évider les choses ?
C'est pas d'évider, mais c'est en effet un décalage entre un temps trop intellectuel, trop un temps de table de travail du compositeur. Qui paraît parfois être un temps, je ne sais pas, idéalisé, qui, en opposition à un temps de concert dans lequel on apprend des choses à toute une autre vitesse. Et donc voilà, pour moi, c'était, et ça continue à l'être. Il y a des musiques que je trouve indigestes, et je crois que j'ai affiné mon oreille pour me caler sur les temps danse des compositeurs et des musiques très riches et avec une complexité dans ce sens-là. Et je trouvais que c'était devenu un handicap parce que j'entendais plus comme la plupart des auditeurs. Donc j'ai fait le chemin inverse de désaffiner mon oreille et surtout de choisir à quelle vitesse je veux parler avec ma musique pour m'adresser à. Enfin voilà, pour adresser un discours vers un type d'écoute.
La musique classique est au-delà. C'est métaclassique, avec David Christoffel.
Docteur, mal au foie pour vous servir.
Docteur, déjanté pour vous guérir.
Iridologue, psychothérapeutologue, thérapeutologue, psychothérapeute, transcendantal.
Allergologue, belle néothérapeute, chiromancien.
Ingénieur en maxilloplastique. Intégré.
Éthiopathe, moyen orientaliste, ailleurs védique.
Diététicien, minéraliste, éthicien, minéraliste, éventéticien, minéraliste, éventriste, éventrilopathe.
Pathophysicien maritien, pathophysicien marilim, spécialim, pathophysicien mariliste, spécialim, spécialiste maritiste, maritime, spécialiste des troubles post-mortem.
Éminent praticien de la médecine pour le corps.
Excellent praticien de la médecine pour l'esprit.
Diplômé des universités de Rond-Point la Forêt et de Barbouille-les-Huiles.
Détenteur de la chair de notre capillotraction
du Collège des métaphysiciens.
Combien de temps dure la princesse légère ?
Combien de temps ? Elle dure 1 h 20 minutes, je crois.
1h20. Parce que il y a 10 ans, tu ne concevais pas de faire une œuvre de beaucoup plus de 30 minutes, tout en disant que de toute façon, la question de la durée n'était jamais vraiment la tienne, elle était souvent celle de la commande qui t'était passée, où il y a un temps approximatif qui est défini par le commanditaire. Et je t'avais posé la question, mais oui, mais si t'as 40 minutes, qu'est-ce que tu en fais? Et donc, La Princesse Légère dure deux fois plus. Est-ce que de composer une forme longue, ce qui n'était pas forcément prévu il y a 10 ans, a changé tes repères quant à l'occupation du temps?
Et ben maintenant, je me demande combien de temps musical a La Princesse Légère, parce que ce n'est pas une symphonie. Disons, de 1h20, c'est tout un autre projet.
Donc, c'est plusieurs petites durées, en fait.
Et c'est même plusieurs types de musique. Disons que parfois, ça parle plus que ce que ça chante. Parfois, on ne peut pas distinguer l'un et l'autre. C'était tout un sujet avec les metteurs en scène. Quel est le temps? Est-ce que c'est le temps de l'action? Est-ce que c'est le temps de la musique? Et du coup, c'est ce dialogue entre ces différentes vitesses, ce qui fait avancer le temps dans le spectacle, qui est beaucoup plus difficile à gérer dans une symphonie, par exemple, où c'est que de l'écoute musicale. Et donc, c'est toute l'attention sur la musique. Et voilà, enfin, là, c'est une autre responsabilité. Je n'ai pas encore eu à faire face à cette une longueur comme ça, qu'en musique instrumentale. Aussi, j'ai créé une pièce d'une trentaine de minutes, mais c'est avec un texte déclamé. Donc, c'est le temps du texte. Après, moi, j'ai choisi des durées et des vitesses dans les textes, mais voilà, ça change complètement le rapport au temps.
Voici les résolutions que tu pouvais prendre à l'idée de faire un opéra, alors qu'il n'en était pas encore concrètement question. Je te propose de l'écouter, puis après de nous dire si tu as pu effectivement tenir résolution.
Oui, j'imagine que je me proposerais comme projet un spectacle très riche, qui stimule le public de façon très variée pour garder son attention et conduire au long des 40 minutes. Et évidemment, avec des moments centrés juste dans la musique, mais d'autres moments de détente, de l'écoute par exemple, vers des moments plus visuels ou des plus des sensations avec de l'illumination, comment dire, oui, des effets d'illumination par exemple. Ça mène la perception dans un autre temps, un autre langage.
Alors, 10 ans après, est-ce que ton expérience d'opéra a finalement comblé tous ces souhaits-là?
Bah oui, c'est drôle, j'avais toutes les clés déjà. Non, je veux dire, pas toutes, évidemment. Mais oui, j'avais conscience sur l'effet de justement cette respiration indispensable. Enfin, indispensable, non. On peut aussi écrire une pièce de 40 minutes purement musicale. Mais voilà, sur mon envie de gérer cette longueur avec différents types d'écoute. Donc ouais, bah, ça c'est... Voilà, j'avais déjà cette envie et après j'ai trouvé les bons interlocuteurs pour les différentes temporalités de cette pièce longue. Donc.
Parce qu'il y a un certain paradoxe entre les deux derniers extraits de l'interview d'il y a 10 ans, quand tu dis d'une part, il ne faut pas remplir trop le temps, parce que d'une manière générale, il est peut-être trop rempli, et quand il s'agit de prendre des résolutions pour l'opéra, d'avoir le souci de ne pas laisser l'attention du spectateur se relâcher, et de tout faire en termes de renouvellement du propos pour y arriver.
Ah non, non, moi je trouve que c'est tout à fait dans le même sens, c'est-à-dire que, et même souvent, voire très souvent, les opéras, et elles ignorent ce besoin des changements d'écoute et donc on assiste à des très beaux concerts. Sauf que voilà, on sort pas du temps musical et là je trouve, enfin pour moi c'est pas intéressant et du coup je reste dans une écoute étrange où je vois des choses mais voilà, je reste dans un seuil qui est trop long pour un concert et qui ne tient pas trop compte de ce qui se passe sur scène. Donc non, au contraire, je pense que les façons de solliciter l'attention du spectateur ça va dans le sens de changer de densité pour continuer, pour que ça continue à être va tenir compte de ses besoins d'audition et d'attention.
Finalement, tu as peut-être plus maintenant quand même souci d'être cohérente avec toi-même qu'avant.
Non, toujours pas. Bah, cohérence, cohérence, c'est un peu trop manichéen, hein, quoi. C'est on l'est ou on l'est pas, et il y a un peu plus de jugement. Il faut être cohérent. Alors que, d'ailleurs, avec voilà, 10 ans après, je revois cette époque de ma vie comme le modernisme. C'est une espèce d'adolescence artistique dans laquelle on a besoin de ces manifestes desquels j'ai parlé. Parce que voilà, on doit croire à quelque chose, parce que c'est, enfin, on fixe un peu ces drapeaux depuis lesquels on voit le monde et les autres drapeaux. Et après, il y a d'autres périodes que j'appelle les postmodernismes, mais c'est toujours dans une histoire personnelle, dans lesquelles on accepte ces incohérences, sauf qu'on les appelle complexité, parce que voilà, c'est plus c'est moins univoque que ça.
À l'époque, tu prononçais carrément le mot contradiction.
Non, je suis une personne qui est souvent en contradiction avec soi-même.
Ah bon ?
Ah oui, mais j'aime bien ça parce que c'est une subjectivité avec moi-même. Hein? Parfois, je ne suis même pas celle que je suis. Donc, je suis plutôt le contraire de cette personne qui affirme... Bon, mais j'avais dit tout à l'heure que j'avais besoin d'un manifeste. Donc, c'est peut-être cette extrême subjectivité qui m'amène à trouver ce que je crois vraiment. Mais je trouve que c'est toujours très enrichissant de pouvoir se mettre en question tout le temps.
J'en déduis qu'il est presque insoluble alors de savoir ce qu'on veut ou de savoir ce qu'on croit.
Il faut continuer à se poser les questions parce qu'une fois qu'on sait ce à quoi on croit, peut-être qu'on n'y croit plus. Enfin, voilà,
Ah oui, c'est comme ces peines perdues, il faut continuer à la chercher.
Oui, disons qu'il faut se méfier des trop grandes certitudes. Enfin, pour moi, pour mon chemin, il y a une pièce très claire qui m'est venue dans la tête, dans laquelle je voulais mélanger la chanson latino-américaine et la musique classique. C'était complètement raté. Parce que j'avais pas cette... Enfin, c'était pas assez clair pour moi, ces deux identités. Et c'est... Oui, j'avais pas assez de recul pour parler d'une identité latino-américaine. C'était trop frais pour moi. Donc voilà, enfin, c'est intéressant. Disons que ça... cette complexité, ces dialogues, je pouvais pas me les poser à 3 ans d'être arrivée en France. Mais il a fallu, je ne sais pas... 9 ans pour que je puisse dire ah oui d'accord, ça c'est ça, moi j'écoute de la musique, d'ailleurs j'écoute de la musique latino-américaine surtout depuis que je suis venue en France, parce que voilà, parce que c'est avant j'avais pas besoin de latino-américaine, j'ai l'été, ça se posait pas, ça se discutait pas, maintenant c'est devenu un sujet, donc évidemment ma façon d'être latino-américaine a complètement changé.
Mais la place des questions, elle, a changé parce que tu tenais un journal de composition à l'époque. Il est toujours d'actualité.
Il est très organisé. Maintenant, il y a... Je fais trop de choses en même temps. Donc, je fais code couleur. Et en fait, il faut que j'écrive à l'ordinateur. Donc, il y a la moitié à l'ordinateur, la moitié dans un carnet que j'écris des deux côtés du cahier avec 5 codes couleurs. Enfin, c'est illisible.
De quand date ce code couleur ? Il n'y en avait pas à l'époque ?
Ben, j'avais fait, c'est pas 5 pièces en même temps à l'époque. J'en faisais une. Et maintenant, c'est... Bah, c'est bien, parce que je suis très occupée, je suis très sollicitée, j'ai de la chance. À l'époque, peut-être que je me disais que c'était une documentation pour Je sais pas, pour la relire, mais maintenant je me rends compte que c'est plus une façon de mettre en ordre mes idées. Et le code couleur, il vient pour des besoins pratiques dans un court terme, mais voilà, je lis rarement. Oh si, ça m'arrive de relire mes cahiers pour aller chercher des choses précises, mais c'est le besoin, il est à plus court terme. Qu'est-ce que j'ai pensé à l'époque?
Voici ce qu'il y a 10 ans, tu disais, de ce journal de composition.
Mais moi, bon, je, pour moi, dès que j'écris une chose, ça, c'est comme si je la fixais un peu plus dans ma tête. Comme on pense tellement de choses. Et voilà, j'ai besoin de les écrire pour voir
les évacuer en quelque sorte.
Oui, c'est ouais. Ça. Oui, et pour les lier les unes aux autres, pour
les structurer entre elles.
Oui, c'est ça. Bah, il y a tout. Il y a au début, il y a l'idée initiale d'une pièce, et donc c'est assez abstrait en général. C'est comme des personnages ou des situations ou un type de sonorité que je vais construire ou. Et par exemple, dans la pièce de Klaus Stocker, de Big Bucket, c'était comme une sensation de distance. C'est une pièce pour cuivre. Donc, mon point de départ, c'était une sorte de situation de mal à l'aise avec une trompette très proche.
On a l'impression que ce journal de composition était plus réflexif il y a 10 ans et semble plus pragmatique aujourd'hui de parce qu'il faut faire face à 5 commandes en même temps.
Oui, voilà, c'est tous les rimes de la vie qui a changé. Il y a 10 ans, j'avais plus de temps pour des réflexions, des divagations. Maintenant, c'est très concret et il faut que j'avance. Et donc, je trouve les moyens les plus efficaces.
Violetta Cruz, Omer Corlet a une question pour vous.
Violetta Cruz, je relisais le portrait qu'a fait de vous dans le livre Compositrice Michel Tosi, qui est un beau portrait, et en même temps m'a posé des questions. Je me suis posé cette notion du beau son, qu'à un moment donné, vous vous interrogez en disant que c'est pas ce que vous recherchez. Vous ne recherchez pas le beau son, que vous cherchez un autre son. Mais en même temps, ma question m'a poussé beaucoup plus loin. En fait, c'est la question de genre, paradoxalement. En me disant, je lis depuis quelque temps, puis j'entends, ce que je n'entendais pas avant, c'est que la musique est un genre neutre. Ah bon ? Je n'y avais pas pensé avant, hein, que c'était ni un genre neutre, ni un genre particulier. Voilà. Mais brutalement, j'ai entendu du fait qu'on parlait de compositrice, que donc la question du neutre se posait. Mais je me suis demandé, pour vous, qu'est-ce que pourrait signifier une musique neutre qui aurait... est-ce que ça parce que ça existe? Est-ce qu'il existe une musique qui n'aurait pas qui serait de genre asexué? Et qu'est-ce que c'est l'ordre du neutre? Et est-ce que ça ne voudrait pas dire que la musique serait simplement un jeu de l'esprit?
Oui, c'est une question qui, voilà, qui, pareil, qui s'est posée à différents moments dans mon parcours. Notamment, je me souviens, avec des professeurs de composition au conservatoire, mais de façon plutôt informelle, à la cantine, où on parlait des musiques féminines, des musiques masculines, des stéréotypes féminins et masculins. Et donc, Louise Naon, elle disait peut-être ma musique est très féminine, parce que moi j'aime beaucoup les sons très délicats. Et peut-être que moi aussi, ma dispute avec les beaux sons, c'était aussi une revendication d'une puissance qui semblerait pas féminine. Et je sais aussi que il y a 11 ans, quand je suis arrivée en France, et que je disais que mes compositeurs préférés étaient Xenakis et Varès, ça faisait un effet de « Ah ouais, c'est des musiques un peu rudes !» Et donc...
Viril.
Voilà, ouais, voilà. Ouais. Mais pour moi, ce sont des stéréotypes. Donc,
Mais ça veut dire que les stéréotypes se sont déplacés sans tout à fait s'abolir depuis 10 ans?
Je pense qu'il y a des gens dont la création est plus près de ces stéréotypes, et même que dans mes pièces, il y en a certaines qui ont une place plus précise par rapport à cette thématique, et d'autres où il s'agit d'autres questions, où c'est pas les bons termes, c'est pas la bonne réflexion. Voilà, c'est pas par là qu'on va arriver à des choses. Les plus intéressantes d'une pièce, par exemple. Donc, par rapport à ce que disait Omer Corlet, je pense que c'est... en effet, que c'est une expression des esprits plus riches que des hommes et des femmes. Disons que je suis une femme avec une histoire X, avec des références X, avec des... pour moi, les stéréotypes, on peut les... Enfin, ils sont nourris par plein d'autres choses. Parfois, il se montre plus que d'autres, que dans d'autres conditions.
Mais il n'y a pas que de la génétique, il y a aussi du Y.
Oui.
Et donc, Aimé Varèse, c'était vécu comme une sorte de digression, ou je sais pas, de disjonction.
C'était inattendu, oui. Je sentais que quand j'ai dit ça semblait, contredire. Enfin, oui, c'est drôle parce que franchement, il y a plein de chapitres de ces discussions féminines. Comment s'habille une compositrice? Est-ce qu'il faut nier des choses très féminines? Après, j'ai rencontré des féministes qui, au contraire, ont des images, s'habillent de façon très hyper féminisée pour dire, alors, est-ce qu'on ne peut pas soutenir un stéréotype et en même temps... est-ce qu'être intellectuel, c'est être anti-femme? C'est très complexe aussi. Il y a plusieurs féminismes, ça aussi j'ai découvert en France, et il n'y a pas très longtemps.
Et toi, du coup, ça t'a donné envie de te mettre à distance de ces débats?
Il y a différentes distances. Par exemple, en ce moment, j'ai été jury d'un concours de composition. Je suis toujours pour des femmes compositrices, parce que le concours, il n'est pas encore fini. Et donc, ça a poussé... c'est vraiment... Déjà, on a reçu des critiques comme quoi c'était pour des femmes et non pas des personnes non-binaires. C'est plein... ça ouvre des portes à d'autres discussions. Et la thématique du concours était le miroir. Et moi, ça m'a attiré l'attention une candidate qui... s'est posé la question du miroir d'un point de vue des femmes. Et donc, où ça devenait le sujet? Qu'est-ce que c'est un miroir pour une femme? C'est pas la même chose que pour un homme. Après, moi, je me pose la question à quel point on arrive à parler de ça dans une pièce sans qu'elle fasse un peu trop manifeste. Quels sont les langages de chaque compositeur pour aborder des sujets politiques? Moi, ça me paraît un peu compliqué si c'est pas par un texte, si c'est pas de façon très directe, parce que ça reste un peu une information de notre programme. Donc il y a plusieurs distances pour politiser ou pas la musique.
Parce que toi au départ, tu as une espèce de de sortie de route, d'un chemin qui aurait pu être ton chemin de musicienne, qui est celui de la concertiste qui joue de la clarinette. Tu m'avais raconté, il y a 10 ans, on va le réécouter, que t'engager dans la composition, c'était déjà désobéir à ce qui aurait pu être un ordre donné, à savoir s'exhiber pendant quelques minutes en faisant un solo.
Oui, mais d'ailleurs, quand tu as dit s'exhiber, j'avais toujours les lunettes du genre, et je trouve que, je sais pas si c'était très pertinent.
Mais toi, pour toi, c'est quand même une meilleure conquête d'essayer de retirer les lunettes du genre que de les multiplier à tous les endroits de la musicale.
Oui, là, je trouve que c'est pas intéressant. Disons, est-ce que l'interprétation, on peut la comparer à s'exhiber? Ben non, pour moi, c'est pas du tout. Je le vois pas du tout comme ça. Donc là, c'est hors discussion du genre.
Alors voilà comment tu en parlais il y a 10 ans.
Quand j'avais 15 ans ou 16 ans, je jouais la clarinette. Et j'aimais pas les spectacles, les moments.
La situation de concert.
Oui,
en fait.
C'est ça, j'ai testé ça. Et j'arrivais pas à me faire l'idée de que toute une préparation, c'était juste pour un moment très court où normalement tout se passait très mal parce qu'il y avait tous les nerfs et tout. Donc ça m'a stressé beaucoup et ça m'intéressait pas autant pour faire l'effort de contrôler les nerfs et tout ça.
En fait, c'était pas très genré comme histoire.
Non, pas du tout. Non, je crois que voilà, je suis restée sur la question du genre, mais ce n'était plus question. Mais oui, non. Après, je me souviens, disons une chose que j'ai découvert depuis, c'est que les musiciens, les interprètes, et c'est un métier qui est aussi physique, c'est-à-dire que comme un danseur. Ça mérite un entraînement, enfin ça demande plutôt un entraînement physique quotidien, et que c'était ça aussi qui n'était pas très compatible pour moi. C'était pas ça le rapport avec la musique, c'était le corps, il était moins pressant. C'était, oui, ça je l'ai découvert après en voyant toutes les heures de travail. Et je me demande, quand j'ai étudié la clarinette, quand elle me disait que j'allais devoir faire des notes longues toute ma vie, et ça me paraissait insupportable comme idée, alors que peut-être
le
maintenant...
côté presque athlétique en fait du métier.
Ouais. Absolument, oui, ça c'est une, ouais, je l'ai découvert sous cette optique plutôt récemment.
Donc pour toi, oui, la composition, c'est un peu une planque aussi pour pas faire de sport.
Ça me manque d'ailleurs. C'est un corps de compositeur, c'est pas, enfin, rester assis toute la journée, c'est pas idéal.
Ça t'arrive?
Oui, c'est. Bah oui et non. Je me souviens quand j'ai commencé avec mon projet de fontaine d'eau. Je pense que j'allais justement dans la recherche d'un rapport plus ludique avec le son. Et donc voilà, d'être un peu moins assis à réfléchir et plutôt à être avec les mains dans la pâte, quoi. Vraiment à manipuler, à jouer, à donner une autre place au corps, aux sensations, à la matière.
Dépasser le temps du concert, on peut dire aussi que ça rencontrait très problématique quant à la temporalité dans le rapport à la musique. Voilà ce que tu disais à l'époque.
Si la vie du temps musical ne dépend pas de moi, ça va très bien. Ben, ne dépend pas de moi en tant que oui, qu'interprète, il n'y a aucun problème. Je pense par exemple tout le temps quand je fais la musique, quand j'écris, et à ce temps vivant, à ce temps, oui, comme à la perception du temps, parce que parfois, quand on est en face d'une feuille, on sort du temps, parce qu'on passe une heure dans un passage qui dure 10 secondes. Donc on est ailleurs, ce temps vivant. Oui, donc j'essaye d'aller à la sensation d'une écoute en concert.
Donc il y a une espèce de projection dans un temps réel.
Oui, tout le temps.
Qui a une valeur de stabilisation du propos ou de... c'est fait pour stabiliser le propos ou pour maintenir une ligne de lisibilité ou quelque chose comme ça?
Oui, c'est parce que parfois on peut trop élaborer un temps théorique dans une feuille de papier qui va se comporter très différemment dans la ligne du temps réel.
Est-ce que ça s'est, depuis 10 ans, rationalisé? Parce que j'imagine que tu objectives beaucoup mieux le temps qu'il te faut pour écrire une pièce de 12 minutes, par exemple.
Bah, 12 minutes, il y a plusieurs 12 minutes en ce moment. Disons qu'il y a plusieurs... Comment dire, c'est...
Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas la même chose si c'est 12 minutes pour Quatuor à cordes ou 12 minutes pour un orchestre d'harmonie.
Par exemple.
Oui.
Non, disons que j'ai amélioré ma méthodologie pour aller plus facilement, pour me mettre plus facilement dans cette situation du temps qui passe, en fait. Le temps devant une feuille ne passe pas. Maintenant, je les appelle des audio-écritures et j'enregistre ce temps. Et je sais que déjà, le fait de pouvoir les réentendre, c'est le fossé. Parce que, voilà, on écoute les choses en concert une fois, le temps fait qu'est passé. Mais au moins, voilà, je sens le temps que je suis en train d'écrire. Donc, c'est un peu les stratégies que j'ai trouvées pour sortir de ces pièges du temps écrit et surtout écrit. Je me souviens de toutes ces heures... devant la même feuille, devant la même mesure, à me dire qu'est-ce qu'il faut bien que je mette ici, sans me rendre compte que c'était un instant et que voilà, que c'était pas du tout les bons outils pour les questions que je me posais à l'époque. Donc voilà, je suis contente de au moins souffrir moins, enfin passer moins de temps à me poser les mauvaises questions.
Donc si on reparle de tout ça dans 10 ans, tu seras peut-être passé à la composition instantanée.
Par exemple. Non, je sais pas. Je crois que je vais continuer à écrire, mais que, enfin, j'espère que je trouverai de plus en plus facilement les réponses. Je me poserai à chaque fois d'autres questions pour continuer à chercher mes réponses.
Et tu penses que tu en seras à 10 couleurs dans ton journal de composition? C'est-à-dire que tu auras deux fois plus d'œuvres en cours?
Ouais, ça c'est... On perd un peu d'énergie à passer d'une couleur à l'autre. Moi, j'aimais beaucoup le temps où j'écrivais l'opéra. Après, c'était un obsessionnel. Ça aussi, c'est pas tout à fait sain. Mais voilà, c'était un entonnoir. Toute ma vie s'adressait à... Toutes les énergies allaient converger dans un point. Ça, c'était plus simple dans un point de vue.
Plus simple, mais pas si sain.
Ouais, bah ça peut être que ça peut pas être si... C'est plus complexe, toujours.
Merci beaucoup, Violetta Cruz.
Avec plaisir.
Je sais. Mes questions n'ont pas de réponse. Et c'est pourquoi je les pose. Pour qu'enfin se taise le discours des effets et des causes. Il n'y a que deux choses, entendu. Des corps nus qui s'échauffent pour un baiser, et la loque du corps qui durcit. Il y a la courbe tenace de la colline, repos du grand ciel bleu éternel, face à la corruption des charniers. Il y a, face au fracas, la strophe claire des visages. Il y a nous qui cherchons à tâtons dans la pleine lumière, le mur chauffé par l'été, pour poser notre épaule et retrouver un temps confiance dans la chaleur du monde. voici ma prière encore. Venez à nous, âme des victimes. La clé sur la porte et la fenêtre ouverte sur les draps chauds encore de vos sueurs. Venez ici. Le vin est servi et la soupe fume sur la table. Il n'est pas de demeure en ce monde qui n'est destin de vous héberger.